Midi 30, 13h, le journal de la mi-journée, c'est avec vous Florence Cohen. Bonjour Florence.
Bonjour Marlène, bonjour à tous.
Quoi que ce soit ce qui s'est passé, il y a une responsabilité claire de cette clique dirigeante. On a toute la capitale qui est défigurée. Si on n'est pas mort, on est mort de l'intérieur.
Cet homme sera parmi les manifestants cet après-midi à Beyrouth. Les habitants veulent crier leur colère contre les autorités, la corruption, la misère. L'une de nos journalistes a par ailleurs visité le cratère creusé par l'explosion de mardi dernier. Comment le Liban peut-il se relever? Nous poserons la question dans un quart d'heure à notre invité, le politologue franco-libanais Ziad Majed. Canicule et bouchons, délicat cocktail pour le chassé-croisé des vacances. Samedi noir dans le sens des départs. Et même cette nuit, ça ne roulait pas.
On est parti à minuit pour éviter les bouchons. J'ai roulé tant que j'ai pu. Dès le départ, il y avait du monde. D'habitude, on roule la nuit très tôt, on va dire avant 3h du matin, il n'y a personne. Mais là, c'était déjà chargé dès le départ.
9 départements sont en vigilance rouge à la canicule. Quasiment toute l'Île-de-France. Météo complète avec Laurent Cabrol à la fin de ce journal. Lyon se lance à l'assaut de Manchester City en quart de finale de la Ligue des champions de football. L'entraîneur Rudy Garcia est réaliste, mais optimiste.
Ils nous sont supérieurs, mais la Juve nous était supérieure aussi. Ça nous a pas empêché de nous qualifier, donc il faut pas qu'on se fixe de limites.
Et puis comme tous les week-ends, votre chronique de droit estival avec Roland Pérez. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu si mon train est en retard? Bienvenue dans votre journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Les Libanais sont en colère et ils comptent bien le faire savoir. Une grande manifestation est organisée en fin d'après-midi à Beyrouth, 4 jours après l'explosion dans le port de la ville. Le drame a fait 154 morts et plus de 5000 blessés. Plus de 60 personnes sont toujours portées disparues. Parmi les manifestants, il y aura Camille Mourani. Souvenez-vous, c'est lui qui avait interpellé Emmanuel Macron lors de sa visite à Beyrouth il y a 3 jours. Écoutez.
C'est fini avec cette classe politique pourrie. Nous en avons assez. Ils ont ruiné le pays. Ils nous ont tués hier.
Nous avons retrouvé ce jeune homme, Camille Mourani, grâce à l'envoyé spécial d'Europe 1 à Beyrouth, Nicolas Feldman. Et oui, il le confirme, il est très en colère. Cette journée est même proclamée samedi de la vengeance.
La vengeance, Al-Intiam. La vengeance. Et vous allez voir des cordes partout. Les échafauds sont partout. La vérité, elle est importante, mais pour le moment, je m'en fous. Aujourd'hui, c'est un détail. Quoi que ce soit ce qui s'est passé, il y a une responsabilité claire de cette clique dirigeante. Il y a une explosion, une très forte explosion qui a frappé Beyrouth. On a jusqu'à présent 160 morts, on a des dizaines de disparus, on a des milliers de blessés, on a toute la capitale qui est défigurée. Si on n'est pas mort, on est mort de l'intérieur. Nous faisons assumer au commandant en chef de l'armée libanaise la responsabilité de toute goutte de sang qui pourrait couler. Je le répète, l'armée et les forces de l'ordre sont appelées aujourd'hui à choisir leur camp. Soit ils sont auprès du peuple, soit ils sont là pour défendre les intérêts de cette kleptocratie, de cette oligarchie qui nous gouverne. On en a eu assez. C'est fini.
Camille Mourani, activiste et manifestant cet après-midi à Beyrouth, au micro Europe 1 de Nicolas Feldman. Une visioconférence des donateurs du Liban aura lieu demain après-midi. Elle sera organisée par la France et l'ONU. On retourne maintenant à Beyrouth pour retrouver Johanna Chabas. Vous êtes l'autre envoyée spéciale d'Europe 1 sur place et vous vous trouvez sur le port, à proximité du cratère creusé par l'explosion mardi dernier. Un spectacle d'apocalypse, on imagine.
Oui, c'est totalement ça. Je suis devant l'épicentre de l'explosion. C'est un trou béant au milieu du port, de la terre partout. Les silos du port sont complètement éventrés par la déflagration. Il faut imaginer, normalement, il y avait des hangars, des bureaux pour les salariés. Il n'y a plus rien que des tas de gravats, de ferrailles. Les bateaux sont tous renversés sur leur côté. Les pelleteuses et secouristes sur place font, eux, voler de la poussière partout. Une équipe de 100 personnes recherche toujours des survivants avec des chiens et des caméras. Mais c'est sans succès, explique Ajam Sam, coordinateur des Nations Unies.
Pour l'instant, on n'a retrouvé aucune victime vivante. Il n'y a qu'une zone qui nous reste à faire et c'est autour des silos. Il y avait des immeubles de bureaux autour. Il y a une possibilité, et c'est une toute petite possibilité, qu'avec l'explosion, il y ait des poches d'air avec des gens vivants dedans. Mais pour l'instant, on n'a aucun signal comme quoi quelqu'un est là. En tout cas, les secouristes sont sur place et travaillent sur ce bâtiment.
Les secouristes ont deux difficultés. C'est d'abord la densité des constructions et surtout, ils n'ont aucune donnée du gouvernement libanais sur le nombre de personnes manquantes. Ils vont continuer à chercher, mais commencent déjà une deuxième phase de leur opération. Ils aident les équipes locales à inspecter les bâtiments aux alentours du port pour s'assurer de leur stabilité.
Merci Merci Johanna Chabas. La liaison devenait un petit peu compliquée avec vous en direct de Beyrouth, tout près du cratère de l'explosion, donc on l'aura compris. Et quel avenir, quelle évolution pour le Liban? On en parle dans une dizaine de minutes avec le politologue franco-libanais Ziad Majed.
Europe 1 midi 35, Florence Cohen.
Si vous êtes sur la route des vacances, vous avez certainement très chaud. 9 départements sont en alerte rouge à la canicule. Il s'agit de l'Île-de-France, sauf la Seine-et-Marne, plus l'Eure et la Seine-Maritime. 53 départements sont, eux, en vigilance orange du nord au sud du pays. Et ce samedi, par ailleurs, est classé noir dans le sens des départs, rouge dans celui des retours. On fait justement un point sur vos conditions de circulation. Comment ça roule, Jeanne Bergaoui?
Eh bien, pas très vite, hein, avec de gros ralentissements, en particulier dans la région Rhône-Alpes. Sur la 7, l'autoroute du soleil, dont le sens nord-sud comptait en ce moment une heure de plus que d'habitude pour faire des étapes de 50 km. Soyez très patients dans le sens des retours. Là, c'est vraiment très compliqué. Il faut par exemple 2h40 entre Montélimar et Valence contre 30 minutes en temps normal. À l'ouest, ça bouche surtout sur l'A10 en direction de Bordeaux avec une circulation en accordéon. Et c'est le cas aussi sur l'A61 entre Toulouse et Carcassonne. Alors si vous le pouvez, pour passer moins de temps dans les bouchons, n'hésitez pas à attendre ce soir vers 19-20h pour prendre la route.
C'est sûr que ce sera plus fluide. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, certains automobilistes ont cru trouver la parade en roulant la nuit dernière. Raté. Ils se sont fait piéger par les embouteillages. Reportage de Stéphane Frangis sur l'aire d'autoroute de Lançon-Provence dans les Bouches-du-Rhône.
Oui, et même ceux qui ont opté pour la stratégie eh bien, de rouler de nuit comme Joël ont été vraiment surpris.
Je pense qu'on a passé le gros du plus dur. Là. On est parti à minuit pour éviter les bouchons. J'ai roulé tant que j'ai pu. Dès le départ, il y avait du monde. D'habitude, on roule la nuit très tôt, on va dire avant 3h du matin, il n'y a personne. Mais là, c'était déjà chargé dès le départ. Et puis évidemment, il y a eu quelques fonds de jaune du volant qui coupaient la route. Il fallait être très prudent, c'est fatigant. Mais si tout le monde conduisait correctement, ce serait moins difficile.
Voilà, et l'aire d'autoroute où je me trouve, malgré sa grande superficie, ne désemplit pas depuis 7 heures. Ce matin, que ce soit pour une pause pique-nique, café ou bien pour une sieste, et on devine vraiment de la fatigue dans les yeux de certains.
Ça va, fatigué, ouais, fatigué. On va dormir un peu et après on partira tranquillement.
Mais la motivation reprend le dessus très vite quand la destination finale est toute proche. C'est le cas de Karim et pour lui ce sera le Lavandou.
Génial, génial. J'y vais en courant là. Et la voiture, même si elle ne veut pas fonctionner, je la pousse. On y va en pédalant.
Voilà, s'imaginer en tongs, maillot de bain au bord de l'eau, c'est le mantra par excellence pour rester zen au volant dans des journées compliquées comme celle-ci.
Effectivement, et troisième jour de pollution dans les grandes villes, des mesures de restriction de circulation sont mises en place à Paris, Lyon et dans les Bouches-du-Rhône. La France envoie un avion et un navire pour aider l'île Maurice. Ils partent de la Réunion, c'est la conséquence d'une marée noire. Sur place, il y a des hydrocarbures en mer après qu'un vraquier s'est échoué, c'était fin juillet. Et on va se retrouver dans un petit instant pour parler de ce coronavirus qui ne cesse de progresser, sauf en Mayenne, et c'est tant mieux.
Il est midi 39, la suite du journal sur Europe 1, Florence Cohen.
Et le coronavirus recommence à progresser. 2300 nouveaux cas ont été diagnostiqués en 24 heures. C'est une progression inédite depuis le mois de mai. Plusieurs nouvelles villes imposent le port du masque dans les rues. C'est le cas de Marseille, Rennes et Carcassonne. Et une bonne nouvelle là-dedans quand même, elle vient de Mayenne. Le virus y a fait une poussée galopante jusqu'à la semaine dernière. À présent, il est endigué et le département reçoit même un satisfecit des autorités de santé, Laura Taouchanoff.
Vous avez pensé être persécuté, stigmatisé, vous avez plutôt été des pionniers, des hommes et des femmes exemplaires. Pendant plusieurs minutes, Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, salue la mobilisation des Mayennais face aux gestes barrières.
Je crois qu'on peut vraiment aujourd'hui remercier toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés, faire réduire très nettement l'incidence. Chacune et chacun a parfaitement compris les enjeux de ces bons réflexes, de ces gestes de bon sens et d'hygiène. Se laver les mains, de garder la distance minimale d'un mètre et de respecter l'ensemble des gestes barrières.
La circulation du virus continue à ralentir dans le département avec un taux d'incidence pour 100 000 personnes de 36,3% contre 49,1% mardi. Depuis une semaine, aucun nouveau cluster n'a été identifié alors que le dépistage, lui, se poursuit massivement.
Ça a été le département de France avec le taux de dépistage le plus élevé. Face à la Covid-19, il n'y a pas de fatalité. La mobilisation de toutes et tous permet le contrôle épidémique et vous l'avez démontré. Si les chiffres sont à la baisse en Mayenne, il ne faut surtout pas relâcher les efforts.
Si les efforts ne sont pas relâchés, la Mayenne pourrait retomber sous le seuil de vigilance dans les prochains jours.
Le gendarme qui a tué un chauffeur routier, c'était à Montauban, vient d'être placé en garde à vue. Le chauffeur routier a été testé positif à la cocaïne et il a refusé d'obtempérer, refusé de s'arrêter lorsque le militaire le lui a demandé. Le sport et prochaine étape pour Lyon, Manchester City. L'OL s'est qualifié hier soir pour les quarts de finale de la Ligue des champions de football. Il a perdu 2-1 contre la Juventus Turin, mais la victoire au match aller lui a ouvert les portes. Le quart de finale aura lieu samedi prochain et l'OL compte bien surfer sur son exploit, Cyril de la Morinerie.
Oui, désormais, il faudra ajouter ce match à la collection des exploits lyonnais. La génération Depay, Cacré, Lopez succède à celle des Lisandro, Jean de Macoun et Loris, qui 10 ans plus tôt avaient écarté le grand Real Madrid d'un certain Cristiano Ronaldo. Hier soir, le génial numéro 7, désormais avec un maillot noir et blanc, a réussi un doublé. Mais le quintuple ballon d'or était bien seul. Les Lyonnais, dominés mais solidaires et courageux, ont tenu. Après la Juventus, c'est donc un autre grand d'Europe, le richissime Manchester City, qu'il faudra affronter au Portugal le week-end prochain. Mais Lyon peut réaliser l'exploit, assure l'entraîneur lyonnais Rudy Garcia.
Ils nous sont supérieurs, mais la Juve nous était supérieure aussi, ça ne nous a pas empêchés de nous qualifier. Donc il ne faut pas qu'on se fixe de limites. Il faudra tout donner sur cette demi-finale. J'espère que c'est un lapsus révélateur sur ce quart de finale.
Lapsus révélateur, pensent les supporters lyonnais. Ils étaient 5 hier soir à être venus féliciter les joueurs à leur sortie du stade à Turin. Fabrice est certain que l'OL peut désormais aller au bout.
On espère que sur des coups de folie, arriver à soulever le titre final.
Face à Kevin De Bruyne et ses coéquipiers, la tâche s'annonce immense, mais l'OL l'a déjà fait. La saison dernière, l'équipe lyonnaise s'était imposée à la surprise générale à Manchester City.
Merci beaucoup Cyril de la Morinerie pour Europe 1 et on suivra évidemment ça sur notre antenne samedi prochain. Allez, on revient à cette canicule qui nous fait bien suer, hein, faut le dire. Figurez-vous qu'avec la forte chaleur sur Paris, la Tour Eiffel se dilate, elle s'étend, elle bouge. Alors ça n'est pas dangereux, rassurez-vous. Et il y a une explication scientifique. Écoutez l'historien et architecte Bertrand Lemoine.
Toute la tour bouge. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une face qui est exposée au soleil. La face de l'autre côté est à l'ombre. La partie qui est vers le soleil se dilate davantage que la partie qui est à l'ombre. Donc la tour se tord comme si elle voulait s'éloigner un petit peu du soleil. Donc elle va se courber légèrement. Et comme le soleil tourne, cette courbure va se déplacer. C'est ça qui crée ce petit mouvement de la tour à son sommet. S'il y avait une antenne pointue juste au sommet, ça décrirait un petit cercle qui peut faire jusqu'à une vingtaine de centimètres de diamètre. Et le sommet de la tour, la nuit, va revenir à sa position, etc. Mais on ne peut pas le ressentir. C'est trop imperceptible et puis c'est très progressif. Pas tout d'un coup la tour qui se dilate ou qui se contracte. C'est une certaine souplesse de cette vieille dame qu'elle conserve, on peut dire.
Voilà, effectivement, on ne sent rien, c'est quand même beaucoup mieux. Et justement, chaleur pour chaleur, on passe à la météo avec vous.
Qu'importe la chaleur, vous êtes bien chez vous grâce au volet roulant Velux, fabriqué en France. Plus d'infos sur velux.fr. Velux vous présente la météo.
Avec vous, Laurent Cabrol, il fait donc toujours chaud, très très chaud, et on en a encore pour quelques jours, on est bien d'accord. Hein.
Mais oui, ma chère Florence. Ah, elle souffre, la Tour Eiffel. Mon Dieu, que c'est émouvant. C'est un sujet émouvant que vous avez présenté là.
La Tour Eiffel. La dame de fer qui souffre.
Ah oui, c'était beau. Alors partout en France, eh bien nous on ne parle que d'une chose, nous les Français on parle que de la chaleur. 42 degrés dans les Landes hier, 41 à Brive et cette nuit 24 degrés à Paris. Et au milieu de tout cela, au milieu de cet étouffoir, une petite zone nuageuse traverse la France. Elle a même donné quelques pluies ce matin. Mais oui, ça existe.
Incroyable.
La pluie. La Sarthe, la Mayenne, la Seine-Maritime, la Picardie, quelques gouttes au sud d'Orléans. Voilà, c'est incroyable, mais vrai, ce sont des petits orages qui se sont propagés et qui demain vont se multiplier. Demain, on les retrouvera dans d'autres régions. Alors, au hasard, l'Orléanais, le Berry, le Limousin, l'Auvergne, le Sud-Ouest, parfois une ondée. Mais oui, quand elle sera là, on va faire la danse de la pluie.
Oui, c'est ça, tout arrive, on en a besoin quand même. Hein.
J'aimerais vous voir sur la danse de la pluie. Champagne-Ardenne, le Nord, le Pas-de-Calais, les Alpes aussi auront quelques ondées. Voilà, mais ne rêvez pas, une fois que l'onde est passée, c'est comme sous les tropiques, la chaleur revient. Et demain, il fera 2 degrés de moins qu'aujourd'hui, mais enfin, il fera encore très chaud.
Torride, merci beaucoup Laurent Cabrol. On vous retrouve tout à l'heure pour la météo des plages sur Europe 1. Et dans un petit instant, on va accueillir notre invité, le politologue Ziad Majed, pour parler de l'avenir du Liban. À tout de suite.
Il est midi 48, le journal de la mi-journée, la suite sur Europe 1 avec vous, Florence Cohen, et à présent votre invité.
Effectivement, où l'on reparle du Liban avec cette manifestation qui va se dérouler en fin de l'après-midi. Manifestation de colère contre la corruption, contre la misère, contre l'incurie de ce pouvoir. C'est avec vous qu'on va en parler, Ziad Majed. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'Université américaine de Paris, spécialiste du Moyen-Orient. Alors, avant d'en venir à la manifestation proprement dite, moi j'aimerais quand même vous poser une question sur les déclarations d'hier du président libanais Michel Aoun. Il dit non à l'enquête internationale sur cette explosion du port et il dit d'ailleurs cette explosion peut venir d'un élément extérieur, un missile. Qu'est-ce que ça veut dire cette déclaration? Il se dédouane encore une fois alors que l'État avait reconnu sa propre négligence dans un premier temps?
Oui, certainement. C'est très révélateur de la mentalité qui gouverne le Liban aujourd'hui, d'un président de la République à la fois déconnecté de la réalité, médiocre, et toujours cherchant à se victimiser et à montrer qu'il n'a aucune part de responsabilité, bien qu'il ait depuis 2016, dans le palais présidentiel à Baabda. Et donc, c'est encore une fois une volonté de cette classe politique, soit de dire que nous ne sommes pas responsables des malheurs des Libanais, soit d'essayer de chercher des théories de complot et d'aller en bataille un peu à la Don Quichotte contre la communauté internationale, cette même communauté internationale qu'il frappe à sa porte pour demander de l'argent parce qu'ils ont pillé le pays et parce que leur mauvaise gestion de l'État libanais a fait faillite, a causé la faillite et a vidé les caisses de cet État.
Oui, d'ailleurs, vous qui parlez de communauté internationale, c'est aussi une pique quelque part à Emmanuel Macron, parce que jeudi, quand il est venu, le président de la République française, il a dit « il faut que des réformes soient faites, je regarderai, je reviendrai ». Donc il a été ingérant finalement, et Michel Aoun lui dit « je veux pas de vous ».
Oui et non, c'est-à-dire oui pour une certaine consommation médiatique pour montrer que la souveraineté de l'État, il l'incarne et il souhaite la protéger et la défendre, mais en même temps, il sait très bien que Emmanuel Macron, qui a été accueilli dans les rues de Beyrouth, s'il était lui-même Michel Aoun à sa place, il serait hué et attaqué par la foule, comme ce fut le cas de d'autres de ses ministres qui ont osé visiter les lieux de l'explosion et là où les volontaires libanais étaient en train de travailler. Donc tous les responsables libanais n'ont même pas rendu visite à un blessé dans un hôpital, ne se sont pas rendus sur place parce qu'ils connaissent la colère de la majorité des Libanais. Et jouer la carte de la souveraineté et de l'ingérence est extrêmement ridicule dans le contexte libanais actuel où le pays a besoin de dizaines de milliards de dollars de la communauté internationale et où aucun responsable libanais n'a osé évoquer ce sujet lors de la visite de Macron. Je ne défends pas le ton, si vous voulez, du président français, mais il n'y a pas d'ingérence dans ce cas précis, puisque ce sont les Libanais, qu'ils soient au pouvoir ou opposés à ce pouvoir mafieux, qui demandent l'intervention de la communauté internationale et l'aide économique et humanitaire au pays.
Justement, cette visioconférence d'aide internationale, elle va être organisée demain. Il y aura de l'argent qui va vraisemblablement être débloqué. Mais comment être sûr, et c'est toujours le même problème qui revient, que cet argent, il ne va pas aller dans les poches de n'importe qui?
Oui, alors il y a un système de clientélisme au Liban qui dure depuis des décennies et il faut surtout le contourner cette fois pour l'aide humanitaire. La conférence de demain, c'est par rapport à la reconstruction de la région du port et des régions à côté qui ont été détruites par l'explosion. On ne parle pas du projet de redressement économique qui va venir bien plus tard et dont il y a les conditions de réforme que Emmanuel Macron a évoquées et que la majorité des Libanais évoquent depuis des années. Pour cette aide-là, il faut surtout qu'elle arrive directement aux hôpitaux, directement aux organisations de la société civile qui font le travail sur place au niveau du sauvetage, au niveau du soin médical, et peut-être une caisse gérée par la communauté internationale ou bien sous la supervision de la communauté internationale pour le travail de reconstruction du port de Beyrouth, qui, je rappelle, est le poumon de l'économie libanaise, puisque 70% des importations viennent à travers ce port qui est complètement détruit maintenant.
Et donc, Ziad Majed, cette manifestation de cet après-midi à Beyrouth, j'aimerais que vous nous fassiez comprendre l'état d'esprit de la population. Elle va hurler non à cette impéritie, elle va hurler comme le hashtag Pendez-les tous, finalement, c'est ce qui va se passer cet après-midi?
Cette manifestation a deux objectifs. Le premier, évidemment, c'est rendre hommage aux victimes de cette explosion et aux victimes de l'irresponsabilité et de la criminalité de certains responsables libanais. Et c'est en même temps de redonner un souffle, de redonner vie au soulèvement populaire qui avait commencé octobre 2019, qui a subi des revers, qui a subi des problèmes. Et finalement, le Covid-19 l'a affaibli davantage. Donc il y a cela. Et évidemment, il va y avoir une colère, une rage, et les mêmes slogans qu'on avait entendus en 2019, quand il y avait encore d'espoir, et quand les gens fêtaient un peu leur retrouvaille dans les rues de Beyrouth, ça va être tous, c'est-à-dire tous, on veut que tous dégagent, et cette fois, c'est pas qu'ils dégagent seulement, mais qu'ils soient poursuivis en justice pour ce dernier crime qu'ils ont commis à cause de leur irresponsabilité, à cause du scandale d'avoir 2750 tonnes explosifs au cœur de Beyrouth.
Merci, voilà, et ce sera effectivement le message de la foule que l'on suivra dans nos reportages sur Europe 1. Merci Ziane Majed, politologue merci franco-libanais, merci de nous avoir éclairé sur cette situation au Liban.
Europe 1, midi 53. Florence, c'est maintenant l'heure de la chronique de Roland Pérez. Ai-je le droit ?
Oui, effectivement, chronique concrète, très estivale, vous en avez l'habitude maintenant. Avec aujourd'hui cette question, hein, Roland, vous nous dites ce à quoi on a droit si notre train est en retard. Bonjour à vous.
Bonjour Florence, bonjour à tous. Oui, ils ne sont pas nombreux hein, ceux qui connaissent dans le détail les indemnisations prévues en cas de train retardé. Indemnisations prévues, je le précise, par le règlement européen. D'abord, tous les trains grandes lignes sont concernés, tels que les TGV, les Intercités, les IDTGV, les Ouigo, Eurostar, Thalys. Et l'indemnisation minimale varie en fonction de l'importance du retard. Ça se calcule quasiment en minutes, Florence. 25% du prix du billet en cas de retard d'une durée comprise entre 50 et 119 minutes. Je vous l'ai dit, c'est très précis. Et moins 50% du prix du billet en cas de retard de 120 minutes ou plus.
Ah oui, c'est clair, effectivement, c'est très très précis. Alors, vous dites que cette indemnisation minimale, elle a été mise en place par une réglementation européenne. Ça veut dire que les entreprises ferroviaires comme la SNCF chez nous peuvent avoir des règles finalement d'indemnisation plus avantageuses ?
Exact. Ainsi, pour les TGV ou trains intercités, entre 30 minutes de retard et 1h59, le voyageur aura droit à 25% du prix du billet sous forme de bon d'achat, à valoir sur un prochain billet ou sous forme de virement bancaire si le retard est entre 1h et 1h59. Il faut vraiment suivre et faire ses comptes. Entre 2h et 2h59 de retard, il est question de 50% du prix du billet en bon d'achat ou virement et plus de 3h, ce qui peut hélas arriver. Ouais. Ce sont 75% du prix toujours en bon d'achat ou virement qui sera alloué aux voyageurs. Et l'indemnisation est peu ou prou dans les mêmes proportions et conditions pour les autres trains ou parcours internationaux. Il n'y a que pour les TER, vous savez, ces trains et autocars de la SNCF qui circulent dans les régions de France, qu'aucune indemnisation n'est prévue, sauf en cas de très forte perturbation et uniquement sous forme d'avantages ou compensations.
Et alors, en pratique, Roland, lorsqu'un voyageur a subi un retard de train, qu'est-ce qu'il fait ? Comment il fait pour obtenir les indemnisations prévues ?
Alors, le plus simple, c'est de faire la demande en ligne via un formulaire ou bien par courrier en rappelant la référence du dossier de réservation. Ce sont les 6 chiffres qu'on retrouve sur le billet. On met la date du voyage, le numéro de train, on met son état civil et il ne faut pas oublier d'y joindre le scan du billet et le bulletin de retard original remis en gare à l'arrivée du train. Et attention, c'est au voyageur de demander ce bulletin, il ne sera pas remis spontanément. Enfin, sachez, comme pour les avions, qu'après 1 heure de retard, les voyageurs pourraient théoriquement avoir droit à des repas et des rafraîchissements. Mmh. Et si le retard empêche le voyageur de reprendre le même jour un nouveau train, c'est un hébergement qui est même envisageable aux frais de la SNCF. Alors, pour retrouver toutes ces informations, on peut aller sur www.sncf.com, service client avec la rubrique en cas de retard.
Eh ben, tout ça est bien noté. Merci Roland pour toutes ces infos très utiles. Et demain, on parle de quoi ?
On parle des déconvenues et litiges qui peuvent survenir à l'occasion d'une location saisonnière.
Oh là, mais ça aussi c'est très concret et ça va être du vécu pour pas mal de gens. Merci encore à vous et à demain. On file tout de suite à la mer. Tiens, ça va nous rafraîchir. Vous rejoindre à nouveau Laurent Cabrol. C'est plus respirable hein, quand même sur les plages.
Oh, par définition, hein, c'est vraiment plus agréable. Et puis surtout le soleil et la chaleur deviennent raisonnables lorsqu'ils sont au bord de l'eau. Alors 25 à 30 degrés cet après-midi sur l'Atlantique. Sur les côtes atlantiques, c'est assez, tout à fait supportable avec 21 à 23 degrés température de la baignade. En Manche, il y aura même quelques nuages sur les côtes d'Opale, par exemple la côte d'Opale, dans le Pas-de-Calais. Quelques nuages passagers, donc ils vont rafraîchir là aussi l'atmosphère. 26 à 28 degrés, température en bord de mer et 18 à 21 degrés dans l'eau. Hein. Vous voyez qu'en Manche, ça monte bien la température. Ouais. Hein. Vous connaissez la Manche, non,
Florence? Oui, je connais quand même un petit peu. Ouais.
Bon, très bien. 18 à 21 degrés. Là, il faut le maillot de laine quand on est effectivement sur les côtes d'Armor, parce qu'on est à 18 degrés seulement. Ouf. En Méditerranée, le golfe du Lion, ce sont des brumes marines qui se manifestent avec du vent marin. La mer est chaude, 22 à 23 degrés dans le golfe du Lion et 27 à 32 degrés sur les plages. Enfin, sur la côte d'Azur et la Corse, il fera beau, 29 degrés sous les parasols et 25 degrés pour la baignade. Voilà, belles vacances.
Que voilà un bel éventail de températures pour se rafraîchir. Merci Laurent Cabrol.